Nous parlions donc de développement économique, mais s'agit-il du développement économique de tout le pays ou s'agit-il du développement économique de la famille elle-même ? Parce qu'il est évident que le développement économique peut parfois ne profiter qu'à certains et ne pas profiter à tous. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut dire, et c'est très flagrant pour des pays comme l'Inde, et c'est la raison pour laquelle les nantis de ces pays collaborent en fait avec la FNUAP et avec tous ces organismes internationaux pour bien rester des nantis, justement, hein, pour ne pas partager au niveau de leur propre société d'une manière différente. Donc ça, c'est la première chose. Le niveau d'éducation, c'est pas dit que le niveau d'éducation change quelque chose très rapidement. Et c'était l'exemple dont je parlais déjà la semaine passée au sujet du Kerala, qui est un État qui est relativement de gauche et qui donc s'est employé énormément à ce que tous les enfants, filles comme garçons, aillent à l'école, est arrivé à un niveau d'alphabétisation qui est pratiquement équivalent à chez nous. Et donc, ça n'a pas forcément entraîné une amélioration de la situation économique de ces gens.
Mais par contre, ça a eu un effet sur la population, là.
Ça a eu un effet sur la population, mais ça n'a pas eu un effet sur l'enrichissement de ces gens qui sont toujours aussi pauvres qu'avant. Donc, on ne peut pas toujours faire ces équations comme ça. Et il y a des pressions très très fortes qui sont faites sur ces pays pour remplir des conditions qui leur donneraient des prêts ou qui leur donneraient de l'argent. Hein. Et l'Inde s'est défendue pendant très longtemps de tous ces projets du FMI, et la famille Nehru a toujours été très très contre. Et c'est jusqu'à la mort du dernier Gandhi qu'ils ont tenu cette position. Et c'est seulement après sa mort que, ma foi, ils ont plié à ces consignes du FMI et ils ont exporté une quantité d'or pas possible qui est partie sur des bateaux vers l'Angleterre. Ça, c'est le néocolonialisme qui continue jusqu'à nos jours. Et ils ont dû accepter des conditions extrêmement rigoureuses, soi-disant pour assainir leurs finances. Et ces conditions rigoureuses impliquent, entre autres, que l'éducation et la santé vont voir une restriction de leur budget catastrophique, tant et si bien que l'État ne s'engage plus dans ce plan qui avait été un plan d'amener tout le monde à la santé pour l'an 2000 par tous les moyens possibles. Hein. Donc il y a un retrait de l'État dans les investissements par rapport à la santé, comme par rapport à la vaccination, par exemple. L'État a complètement renoncé à s'occuper de la vaccination dans ce pays et s'en remet complètement aux organisations non gouvernementales en leur disant, écoutez, nous, c'est plus dans nos moyens, c'est à vous de reprendre ce genre d'activité.
Mais c'est pas très... En même temps, ça a l'air très contradictoire parce qu'on sait, je crois que vous l'écrivez largement, mais c'est, il me semble, un avis qui a été en tout cas partagé au Caire, que l'augmentation des soins primaires aboutit quand même à en fait un contrôle, à limiter la fécondité. C'est pas nécessairement seulement en imposant une contraception ou une limitation des naissances, c'est aussi simplement en s'occupant des personnes, des femmes et des enfants, puisque tu l'as dit avant, une diminution de la mortalité a très vite un effet sur la population. Alors, si d'un côté on diminue, on fait des pressions économiques, comme le fait le FMI, pour diminuer ses soins primaires, et en même temps on fait les mêmes pressions, car le FMI, je crois, en Inde, a fait des pressions pour limiter la population, ça a l'air de donner des coups de pied de deux côtés contradictoires.
C'est complètement contradictoire, mais c'est pourtant ce qui se passe. Ceci dit, je pense que les personnes qui ont fait pression, comme Mme Sadiq par exemple, et d'autres personnes qui ont essayé de faire progresser ces textes et les faire amener à quelque chose d'un petit peu plus humaniste, voire même d'un peu plus féministe que ce qu'ils étaient avant, je suis convaincue que ces personnes sont tout à fait sincères, c'est-à-dire qu'elles croient vraiment qu'elles contribuent à une amélioration de la situation en faisant ce genre de travail. Mais je crois qu'en effet, il n'y a pas toujours un lien entre ce qui se passe au niveau de ces conférences, au niveau de ces textes, et puis ce qui se passe au niveau du FMI. Et je ne crois pas qu'il y ait une influence directe entre les deux.
Est-ce que tu as un exemple plus précis de contraintes imposées par les FMI ou la Banque mondiale, ces deux organismes qui prêtent de l'argent à des États et qui souvent les États du Sud, bien sûr, et qui imposent des conditions draconiennes pour prêter cet argent? Parce que je crois qu'on en avait parlé à l'époque, on se posait la question de savoir si la Suisse devait entrer au FMI. Mais sur la population, par exemple, tu as un exemple que tu connais qui pourrait être flagrant de voir la pression sur le mode de contrôle des populations liée à un chantage de fric comme ça?
Ah bah, malheureusement, c'est ce qui se passe quotidiennement. Les exemples les plus frappants sont peut-être des pays comme le Bangladesh, où, en effet, les conditions sont très, très strictes, je veux dire, et les méthodes de soi-disant planification sont parfaitement coercives. L'autre exemple, c'est l'Indonésie, où, en fait, les femmes se trouvent encerclées par l'armée qui les fait monter dans des camions pour les emmener dans des camps où on va leur trouver soi-disant la meilleure contraception. Je veux dire, ces faits ne sont pas seulement anciens, ils sont tout à fait actuels et ces pays continuent à vivre des démarches tout à fait coercives et qui sont faites avec l'argent des États-Unis, en gros, mais avec la collaboration des nantis de chacun de ces pays. Il ne faut pas toujours croire que c'est que les États-Unis, disons, c'est vraiment les États-Unis en association avec la haute bourgeoisie de ces pays. Par exemple, le Nord-Plan, si on prend l'exemple du Nord-Plan. Hein, le Nord-Plan est largement critiqué depuis longtemps. Les Brésiliennes ont fait...
Il faut peut-être rappeler ce que c'est.
Expliquons. Ouais. Explique ce que c'est que le Nord-Plan.
Le Nord-Plan, c'est un implant qui s'implante dans le muscle d'une femme. Il y a 5 petites pointes, comme des balles dum-dum, qui vont dans 5 directions différentes.
Donc dans son bras, voir le geste
dans
que
son bras
faire.
Ou dans un bon muscle bien tendre. Et ces 5 petites particules vont diffuser lentement de la progestérone. Hein, et cette diffusion va durer pendant 5 ans. Puis une fois qu'il est dedans, ben, on ne peut plus l'enlever.
Alors, c'est un contraceptif.
C'est un contraceptif de longue durée et qui ne peut pas être interrompu. Hein, contrairement à ceux qui existaient par le passé, déjà critiquables, mais qui avaient au moins l'avantage d'être de plus courte durée, comme celui qui est par exemple chez nous, hein, le dépôt Provera, c'est une injection, elle dure 3 mois. Bon, si on trouve que vraiment c'est catastrophique, on peut ne pas la renouveler. Celle-ci, eh bien, elle est en place pour 5 ans. Et c'est facile à implanter, mais par contre, pour aller le chercher, c'est déjà plus difficile, parce qu'il faudra faire vraiment une chirurgie pour aller rechercher chacun de ces 5 morceaux, hein, qui sont en partie dans 5 directions différentes. Alors, cet implant va diffuser de la progestérone sur 5 ans. Est-ce que cette femme va bien le supporter, pas bien le supporter? Est-ce qu'elle aura des effets secondaires? Est-ce qu'elle va se mettre à saigner d'une manière exagérée? Comme il n'y a pas de centre de soins primaires, si elle venait à s'en plaindre, eh bien, elle n'aurait que le ciel vers qui se tourner, parce que ces équipes passent une fois, mais ne sont pas réellement établies. Et même dans les villes, les femmes qui se sont plaintes et qui ont demandé, qui sont revenues et qui ont consulté, puis qui ont dit « écoutez, je ne le supporte plus, je veux l'enlever ben », en général, on leur refuse. Donc ça, c'est un des exemples qui a été beaucoup critiqué quand ils ont essayé de l'implanter au Brésil. En fait, ils ont eu une réaction populaire énorme. Et puis, ils ont c'est plutôt les femmes qui ont gagné, disons ça. Ça a plutôt raté leur histoire. Et quand ils ont voulu l'implanter en Inde, eh bien, il y a aussi eu des réactions du côté des organisations féminines. Et les agences de développement dites progressistes, hein, qui sont plutôt les pays du Nord, les pays scandinaves, commencent à donner des conditions pour donner des fonds à ces pays. Puis ils disent, on vous donne de l'argent que si, quand vous lancez un nouveau programme, vous consultez les organisations féminines avant de le faire. Ça, c'est la nouvelle politique des organisations de développement des pays scandinaves. Et alors, ils sont un petit peu obligés de le faire. Alors, par exemple, à Bombay, enfin dans toutes les grandes villes indiennes, au sujet de l'implantation du Nord-Plan, ils ont dû organiser des réunions auxquelles ils ont invité différentes représentantes de différentes organisations féminines et féministes du coin pour essayer d'avoir un dialogue sur cette question. Donc, ils essayent de le faire, mais ça ne se passe pas toujours avec une sincérité énorme. Et moi, j'ai l'exemple de 2 de ces réunions, une qui a eu lieu à Bombay et une qui a eu lieu à Hyderabad. Dans celle de Bombay, ils ont carrément écrit un faux rapport après coup. Et puis, ils ont dit que les organisations féminines étaient d'accord, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas. Dans celle de Hyderabad, ça s'est beaucoup mieux passé, par contre. Et les arguments que les femmes avaient à invoquer contre ces méthodes ont vraiment été enregistrés dans le rapport. Mais les pressions continuent à se faire. Et on a parfois l'impression que notre rôle, ma foi, est un peu symbolique. Si vous voulez, même si cette rencontre a eu lieu, même si ce dialogue a eu lieu, eh ben, ces gros sous, ils arrivent quand même. Et puis, ils vont quand même aller de l'avant. Et il y aura des conséquences à court terme pour ces femmes. Il y aura des conséquences aussi à long terme. J'ai entendu cet été en Australie un témoignage de femmes dont l'État d'Australie essaye de limiter les naissances. Et c'est tous les indigènes qui vivaient sur place avant que ces Européens n'arrivent. Hein. Et ils s'y prennent à peu près de la même manière, toujours avec ces progestatifs de longue durée. Et on se rend compte aujourd'hui que ces femmes qui ont pris ces progestatifs de longue durée pendant plus de 15 ans, elles arrivent à l'âge de 35 ans avec une ostéoporose comme nos femmes de 75 ans ici. Hein, donc il va y avoir des conséquences, pas seulement à court terme, il va y avoir des conséquences aussi à long terme qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui et dont on ne se préoccupe pas toujours avec une sincérité réelle.
Mais je crois que, moi je lisais, tu parlais du Bangladesh tout à l'heure, il faut aussi dire que parfois, comme tu le disais, avec l'histoire de la collaboration des nantis et de ces organismes, il peut y avoir des contraintes qui sont bien plus rigides encore que celles que tu disais. Vous avez parlé d'une expérience d'un groupe de femmes au Bangladesh qui disait que dans les 24 heures, elles avaient dû arrêter leur pratique d'extraction de règles, c'est comme ça qu'elles appellent l'avortement ou qu'elles pratiquent une forme d'avortement là-bas, sous pression des États-Unis, je lis dans Solidaire.
Oui, oui, il y a des pressions très, très dures. En Inde, on en a aussi connu. Je veux dire, l'exemple de l'armée qui vient et qui groupe tous les hommes d'un village, sépare les musulmans des hindous, prend tous les musulmans, les emmène dans une maison et les stérilise de force. Bon, ça, c'est les exemples vraiment crus. Aujourd'hui, ça prend une autre forme parce que ce genre d'acte a fait perdre le pouvoir à celle qui avait initié cette action. Alors, par la suite, ils ont essayé de trouver des moyens un peu moins flagrants. Hein, mais on voit, par exemple, dans le film « Something like a war », quelque chose comme une guerre ou presque une guerre qui aujourd'hui est disponible sous-titré en français, on voit des camps de stérilisation où en fait les femmes ont été quasi traînées de force. On leur a fait des promesses qui ne seront jamais tenues. Elles ont un numéro collé sur le front. Elles passent l'une après l'autre à une stérilisation sans anesthésie, qui est quelque chose d'assez affreux. Et quand on interviewe sur place les gens qui sont soi-disant ce qu'on appelle les motivateurs, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de motivateurs différents. L'épicier est un motivateur, le préleveur d'impôts est un motivateur. Et tous ces gens subissent eux aussi des pressions. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ce travail de, soi-disant, motiver des femmes et de les convaincre d'accepter la stérilisation, c'est sur eux que ça retombe. Ça veut dire l'épicier, il va perdre son droit de travail. L'autre, il va perdre son salaire. Donc, il y a des témoignages où on voit des personnes qui disent « Mais voilà, moi, on m'a déjà enlevé 3 mois de mon salaire parce que j'ai pas motivé assez de femmes. Hein, » Donc, ça, c'est des pratiques contraignantes, peut-être moins flagrantes que celles qu'on a connues par le passé, moins militaires, si vous voulez. Hein, il n'y a pas une mitraillette à la clé, mais enfin, c'est quand même terriblement efficace. Hein. Si un épicier doit fermer son magasin s'il n'arrive pas à motiver 50 femmes par mois, vous rendez compte de ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il le fera.
Dans le genre contrainte, il y a aussi une action d'ailleurs que vous aviez menée, vous et Fille à Genève, il y a de cela quelques mois, dont j'ai retrouvé un article par miracle, je ne sais pas comment ça se fait, contre aussi des nouvelles méthodes de contraception que vous trouvez absolument scandaleuses dans la mesure où elles feraient pression aussi d'une façon très subtile, elles associeraient contraception avec vaccination, qui passe beaucoup mieux dans la tête des gens que contraception.
Alors ça, c'est nos deux grandes peurs actuelles. L'une, c'est le Norplan et puis l'autre, c'est en effet le vaccin. Et le vaccin est en expérimentation à l'OMS à Genève. Il est également en expérimentation en Inde. L'Inde est très, très fière d'avoir découvert à peu près en même temps son propre vaccin. Alors qu'est-ce que fait exactement le vaccin? Eh bien, le vaccin manipule l'organisme de manière à ce qu'il se mette à reconnaître des hormones humaines comme des agents étrangers. Ça veut dire que dès que dans le sang, l'hormone de la grossesse se mettra à monter, le corps va immédiatement la reconnaître comme ennemie et il va la détruire. Et de cette manière, la grossesse ne pourra pas continuer. Il y a différentes sortes de vaccins qui reconnaissent comme ennemis différentes étapes de la grossesse, mais enfin, le but est toujours le même. Et c'est un détournement de l'idée de la vaccination qui est quand même assez monstrueuse, parce que jusqu'à présent, on a employé la vaccination, et on peut encore la critiquer, la vaccination, mais enfin, néanmoins, on a toujours employé la vaccination pour essayer de fabriquer des anticorps contre des agents pathogènes, c'est-à-dire contre des agents qui potentiellement peuvent produire une maladie sur quelqu'un. Alors en effet, ça a peut-être un sens de fabriquer beaucoup d'anticorps contre la malaria ou contre une autre maladie, de manière à ce que si jamais on a le malheur de la rencontrer, bon, on a déjà toute une garnison d'anticorps qui sont prêts et qui sont prêts à lutter. Ici, on encourage le corps à reconnaître comme ennemi quelque chose qui est sécrété par le corps humain. Et nous trouvons ça affreusement inquiétant pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir un dérapage. Tout d'un coup, le corps peut s'emballer et se mettre à en reconnaître davantage comme ennemi. Et il faut quand même bien se rappeler qu'aujourd'hui, les maladies qui nous menacent le plus sont les maladies qui ont à voir avec l'immunité. Hein, on a des maladies d'emballement immunitaire, comme par exemple les allergies. On a des maladies comme le sida, où en fait l'immunité s'effondre. On a ces fameuses maladies auto-immunes, où subitement le corps se met à reconnaître comme ennemi un de ses propres organes. Hein, le foie se détruit ou un autre organe se détruit. Donc, commencer à essayer d'induire le corps à reconnaître comme ennemi quelque chose qui est sécrété normalement par le corps, ça soulève déjà cette première inquiétude. Est-ce qu'il n'y aura pas un dérapage, puis subitement on va se mettre à reconnaître tout l'ovaire comme ennemi ou d'autres hormones qui sont liées à cette hormone comme ennemi. Ça, c'est la première inquiétude. Et puis la deuxième, c'est celle que tu mentionnes. La vaccination est très populaire dans la plupart des pays du monde. Les gens ont vraiment accepté cette idée. Amenez vos enfants pour les faire vacciner, pour qu'ils survivent. Hein.
Protégez-les, il y a la notion de protection.
Protégez-les, voilà. Donc c'est une notion qui est parfaite, qui a bien passé, on peut dire. Hein. Et alors la crainte, ce serait qu'on donne un discours extrêmement simplificateur au moment où on donne ce vaccin, et puis qu'on en donne deux, trois. Et en effet, le vaccin pour la grossesse, ils ont employé comme porteur des vaccinations courantes, la diphtérie, la poliomyélite. Donc il y aurait tout à fait la possibilité de faire une espèce de cocktail et puis d'offrir une vaccination dans laquelle il y aurait la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos et la grossesse. Et donc, ça permettrait en fait de faire des vaccinations ou d'entraîner une stérilité temporaire à l'insu d'une femme.
J'examine et je fume. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. La cat 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 que don. La cat 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 que dit. La cat 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 que don. La cat 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 que dit. Couponnez ça ma peine de haut. Couponnez ça ma peine de haut. Tsunami, ça idia. Tsunami, ça idia. N'a tout ça idia. Batoton, batoton, batoton. La cat 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 que don, la cat 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 que don, la cat 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 que dit. La cat 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 que dit. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver, il faut sauver tout. Et je dis, brûle la quatre 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 don, brûle la quatre 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 qui dit, brûle la quatre 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 don, brûle la quatre 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 qui dit, brûle la quatre 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 don, brûle la quatre 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 qui dit, brûle la quatre 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 don, brûle la quatre 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 qui dit.
Alors Alors, je crois qu'on pourrait juste conclure, Rina, sur cette histoire de vaccin. C'est quelle action avaient entreprise les femmes? Parce que FI faisait partie d'une action à Genève face à l'OMS avec d'autres associations de femmes. Mais je crois que déjà avant, il y avait eu une réaction encore plus ample parce que pas tous les groupes de femmes n'ont pu venir à Genève.
Oui, j'aimerais quand même dire que cette action sur le vaccin, c'est une action qui a été fantastiquement unitaire. C'est une des seules actions sur lesquelles toutes les organisations de femmes du monde se sont mises complètement d'accord. Et toutes les organisations, il y en avait une trentaine qui avaient signé cette action, qui était un appel, donc qui était adressé à l'Assemblée mondiale de l'OMS, hein, qui était contre ce vaccin. Et la raison pour laquelle on est profondément contre, c'est que nous sommes intéressés par des contraceptifs que la femme ou le couple peuvent apprendre à utiliser eux-mêmes et pouvoir interrompre quand ils le désirent. Et nous ne voulons pas de ce genre de contraceptifs qu'on ne peut pas interrompre et qui sont souvent de beaucoup trop longue durée par rapport à la planification qui intéresserait un couple réellement. Hein, 5 ans, c'est beaucoup trop long pour un espacement de naissance. Et la plupart des couples seraient intéressés par 2-3 ans. Hein, donc ça, c'est le critère fondamental pour nous, le risque de ces contraceptifs. Et puis le fait que le couple ou la femme ne peut pas le contrôler lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés contre ce vaccin.
Vous avez eu un écho de l'OMS?
Alors,
ça a eu un effet sur les...
C'était pas inintéressant parce qu'on avait aussi des personnes qui étaient à l'intérieur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de délégués qui étaient sur place, qui étaient en fait absolument pas informés au sujet de ce vaccin. Donc, c'est des gens qui représentent leur pays, hein, et qui étaient absolument même pas au courant de l'existence de ce vaccin. C'est quelque chose qui est en train de se passer, qui est mené à l'OMS depuis des années. Ils étaient même pas au courant. Donc, ça a au moins eu cet intérêt-là, c'est-à-dire de sensibiliser un certain nombre de délégués à cette controverse. Mmh. Et puis, ça a aussi eu l'avantage de toucher la presse, même la presse internationale, de manière à faire savoir qu'en fait, les femmes sont contre ce vaccin.
Pour en revenir au débat, votre dossier donc, s'appelle « Femmes, population et développement ». Il est paru, c'est le journal Solidaire de la déclaration de Berne, numéro 124 d'août. Vous pouvez encore vous le procurer. Il est vraiment tellement riche, ça vaut la peine. Le Caire n'est pas terminé avec ce dossier. Ou plutôt, le dossier n'est pas terminé avec le Caire. Vous dites donc « Femmes, population et développement ». Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un enjeu des femmes, le contrôle des populations?
Alors, ça, c'est peut-être la première chose qu'il faut dire. C'est une chose dont on s'est déjà rendu compte il y a longtemps et qui continue malheureusement à être vraie. Le contrôle des populations, en soi, c'est une idée profondément raciste. Hein, c'est une idée selon laquelle les femmes blanches devraient avoir plus d'enfants. Et alors, dans leur pays, on va rendre l'avortement de plus en plus difficile. On va essayer de trouver toutes sortes de démarches pour essayer de les encourager à avoir ces enfants, quand bien même elles ne voudraient pas les avoir. Parce qu'elles n'arriveraient peut-être pas à mener une vie professionnelle en même temps que d'élever ses enfants, parce qu'elles n'auraient pas de futur ou pour toutes sortes de raisons. Et d'un autre côté, on va essayer d'empêcher d'autres femmes dans d'autres endroits du monde à avoir les enfants qu'elles voudraient avoir. Donc, dans l'arrière-pensée même de cette notion de contrôle des populations, il y a déjà une idée profondément raciste et puis qui va leur retomber sur le nez. Parce que on va pas s'en sortir avec le nombre d'enfants qu'on a dans nos propres pays. Hein. On va pas s'en sortir. Notre démographie est complètement inversée. Nous n'avons pas assez de jeunes et nous avons trop de vieux. Et ça va nous retomber sur le nez. On va pas réussir à leur payer la VS. Enfin, c'est une démographie casse-gueule. Donc, on va continuer à être obligé d'importer régulièrement des gens. Et des gens jeunes et en bonne santé, si possible. Et je vais même ajouter à ça une idée encore plus... croquignolette, la qualité du sperme de l'homme est en baisse dans nos pays, hein, en raison du fait qu'il y a trop d'œstrogènes dans l'eau, en raison de toutes sortes de facteurs environnementaux, les hommes n'arrivent plus à se reproduire dans nos pays. C'est la catastrophe. Hein. Donc on va être obligé d'importer des jeunes et en particulier des hommes en bonne santé pour faire survivre nos pays. Hein.
Laboratoire de population, bientôt l'Europe.
Donc on va se brouder de toute façon avec ce genre de politique.
J'aimerais juste préciser que Genève, à ma connaissance, ça fait environ 2 siècles qu'elle ne se reproduit pas de façon endogène, mais justement grâce à l'immigration. Hein. Ça fait 2 siècles qu'à Genève, on a arrêté de faire des enfants et que la population continue d'augmenter quand même grâce à l'immigration. Donc c'est effectivement une vieille coutume, si on peut dire.
Oui, elle va encore s'aggraver en raison de cette baisse de la qualité du sperme.
Donc c'est pas un enjeu, donc tu le dis, le contrôle de la population c'est un enjeu raciste, donc finalement il n'y a pas assez des bons, il y a trop des mauvais, ou il y a en tout cas trop de pauvres, hein, c'est bien ça à la conclusion à laquelle on arrive. Mais quand même, pour les femmes, ça reste un enjeu parce que ça touche, finalement, le contrôle de la population se fait principalement sur leur corps. Et tu l'as bien expliqué avant, ces méthodes coercitives dépossèdent totalement les femmes d'un contrôle sur leur corps. Donc, est-ce que c'est en ce sens-là que c'est un enjeu ?
C'est un enjeu en ce sens-là et c'est un enjeu aussi parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on essaye de supprimer les pauvres et nous aimerions qu'on mette de l'énergie pour essayer de supprimer la pauvreté et donc qu'on prenne le problème d'une autre manière et qui nous ramène de nouveau à la question de la répartition des biens sur la planète.
Mais quand les femmes, Rina, expriment leurs besoins, puisque c'était quand même le thème de votre participation, collaboration à Solidaires et avec la déclaration de Berne, c'était de dire nous voulons parler, nous voulons demander, de dire qu'il faut être à l'écoute des besoins des femmes. Alors, quand les femmes expriment leurs besoins, est-ce que c'est ceux d'avoir un meilleur moyen de contrôler leur fécondité, ou est-ce que c'est tout autre chose ? Est-ce que c'est d'être alphabétisées ? Est-ce que c'est leur statut social ? Est-ce que c'est justement de combattre la pauvreté ? Qu'est-ce qu'elles expriment dans un premier temps quand elles sont consultées et qu'on considère qu'elles ne sont pas assez trop idiotes pour pouvoir prendre une décision?
Oui, elles peuvent toujours prendre une décision, pour autant qu'on leur donne les moyens. Alors, elles ne disent pas forcément la même chose suivant où elles vivent dans le monde. Hein. Par exemple, si on pose cette question à une femme indienne qui vit en zone rurale, et c'est ce que j'ai fait pendant ces années où je travaillais en Inde, on a fait des groupes auto-examen, des groupes de discussion avec des femmes qui vivent en zone rurale dans différentes parties du pays, et c'est toujours un petit peu les mêmes points qui sont ressortis. Leurs priorités, elles se situent tout d'abord sur leur santé en général, leur intégrité corporelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir se nourrir convenablement, le fait d'avoir un toit, d'avoir de l'eau propre. Et puis si on parle de ces problèmes de santé, ben, il y a d'autres problèmes de santé qui sont beaucoup plus prioritaires que la contraception. Et ça a à voir avec beaucoup de problèmes gynécologiques souvent, avec des règles trop abondantes qui entraînent des fatigues, qui entraînent des anémies, qui entraînent des maux de dos, des problèmes de vue. Et pour ce qui concerne la reproduction, ça viendrait peut-être en point 6 ou en point 7 dans leur ordre de priorité. La fertilité les préoccupe beaucoup plus que la contraception. Parce que dans ces pays, si une femme n'est pas fertile, elle risque de se faire répudier. Et alors, elle est vraiment fichue, parce qu'elle ne peut pas retourner non plus à la famille de ses parents. Donc la fertilité est pour elle beaucoup plus une préoccupation que la contraception. Mais quand, sur plusieurs années, on parvient à améliorer petit à petit les premiers points de priorité, dans l'ordre de priorité qu'elles avaient, ben, au bout d'un moment, elles viennent aussi à s'intéresser à la contraception. Mais ça prend son temps. Je pense que dans d'autres pays, dans des pays où l'Église catholique a un impact puissant, par exemple, alors là, ça pourrait être différent. Là, elle pourrait peut-être dire que la contraception est une priorité relativement importante. Je pense, par exemple, à des pays d'Amérique latine, hein, où il y a où l'Église a trop de poids. Je pense que dans ces pays-là, il y a plus forte raison, si elles ont déjà un niveau de vie suffisant, ben là, la contraception, ça va devenir un enjeu extrêmement important parce qu'on leur a refusé l'information de base qui leur aurait permis de gérer un petit peu mieux ça. Donc moi, je crois qu'on doit profondément aller dans l'ordre de priorité que les femmes expriment elles-mêmes et résoudre les problèmes l'un après l'autre, y compris en venir à celui-là. Et il y a une demande, c'est juste. Je veux dire, ce que dit la FNUAP, c'est juste. Il y a beaucoup de femmes qui meurent de grossesse, de complications d'avortement provoqué ou de complications de grossesse non désirée. C'est un scandale. Elles devraient avoir les conditions nécessaires de régler ce problème d'une manière plus saine.
Il avait presque 20 ans. Fallait voir, sa gueule c'était bouleversant. Fallait voir pour croire, à l'abri du grand soleil. Je l'avais pas vu venir, ce gosse c'était une merveille. De la voir sourire, voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de ce moment. Tu parles, tu parles. J'aime beaucoup les enfants. J'ai l'esprit de famille, mais j'ai dépassé le temps de